Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un peu plus de 11h sur votre radio locale. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et ce samedi 3 septembre 2022, c'est notre rentrée sur l'antenne de Radion que vous écoutez dans Lyon sur le 90.5 en modulation de fréquence, mais également en Bourgogne et peut-être aux quatre coins de France via internet sur radion.fr. Nous espérons en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances et nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'ouvre bien évidemment avec un nouvel invité que j'ai grand plaisir à recevoir devant ce micro. Bonjour Jean-Marc Aubert.
Bonjour Yannick.
Merci Jean-Marc Aubert d'être avec nous. Votre dernière publication, c'est aux éditions de L'Arbre Vengeur. Joli nom d'ailleurs pour une maison d'édition, L'Arbre Vengeur.
Oui, d'autant qu'il y a eu l'édition à une sous-édition en quelque sorte qui s'appelle L'Arbuste Véhément.
Incroyable. C'est drôle. Et alors ce dernier ouvrage a pour titre L'Insecte et le Jardinier. J'allais dire que c'est un recueil de nouvelles, ce sont des insectes qui prennent la parole, qui racontent leur vie, leurs désirs, leurs plaisirs, mais aussi peut-être parfois leurs conditions absurdes d'existence. Je vais peut-être un peu loin sur l'absurde de l'existence.
Non, oui, c'est ça, mais c'est pas forcément eux qui prennent la parole, quelquefois c'est le narrateur,
c'est vrai.
Pas toujours... une condition absurde. Enfin, il faudra que j'en reparle.
On y reviendra, mais je me dois d'abord, Jean-Marc Aubert, de vous présenter un peu à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes né à Nice en 1951, alors vous êtes l'auteur de plusieurs romans. L'aventure éditoriale a commencé en 82 aux éditions Albin Michel avec aménagement successif d'un jardin à C en Bourgogne. C'est Charbuis, dans Lyon, parce que vous avez une longue carrière de professeur de lettres, devenu ensuite personnel de direction d'établissement. Vous résidez aujourd'hui à Amiens, où vous êtes à la retraite. Alors Jean-Marc Aubert, qu'est-ce que je dois mentionner? Argumentation de l'Inès Fellow en 82 chez Albin Michel, repris à L'Arbre Vengeur. En 91, un magnifique recueil de nouvelles, paru aux presses de la Renaissance. Et ce recueil a pour titre L'Encombré. Alors les romans, La cathédrale de Glaise, Bambou chez Fayard en 96, qui vous a valu d'être finaliste sur la liste du Goncourt. Kurtz, que l'on trouve réédité chez L'Arbuste Véhément, donc la maison d'édition cadette de L'Arbre Vengeur. Cigarette Please, au Seuil en 2003. Et en cette année 2022, donc, L'Insecte et le Jardinier. Vous êtes suffisamment bien présenté, Jean-Marc.
J'ajouterai quand même, parce que ça me fait énormément plaisir, que il y a quelques traductions, hein, dont une en coréen. C'est quand même formidable, j'aime beaucoup être traduit en coréen. Et puis récemment en italien, Kurtz a été traduit en italien récemment, ça me fait vraiment fort plaisir. Puis il y a quelques livres que vous n'avez pas mentionnés. J'en suis à 11 de romans en fait. Hein.
Kurtz d'ailleurs a été adapté au cinéma par Richard Berry, sous le titre L'art délicat de la séduction. Alors L'Insecte et le Jardinier. Dans... votre texte, page 96, le narrateur dit « J'avais lu récemment, dans le but de me guérir peut-être, un manuel d'entomologie. » Qu'est-ce qui vous a poussé vers les insectes, Jean-Marc Aubert? Une thérapie? L'observation de ces animaux que l'on néglige bien souvent, que l'on ne peut pas acheter sur un marché, qu'on ne mange pas, comme le bœuf, le veau, la volaille?
En effet.
Pas encore. On ne les mange pas encore. Mais ça va venir.
Ça m'arrive, moi, ça m'est arrivé de manger des insectes. C'est pas mauvais, d'ailleurs. Hein. Griller, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qui m'a poussé aux insectes? D'abord, comme pour tous mes romans, au début, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais ensuite, j'ai compris. Alors, il se trouve que j'étais à Naples, il y a quelque temps, avec un ami que vous connaissez, et depuis quelques jours, nous mangions des penées au pesto. Et il se trouvait qu'il avait une passion pour les penées au pesto que nous préparait une amie. Un jour, nous allons dans une épicerie et il s'agit d'acheter de nouveau, de renouveler notre stock de pâtes. Et cet ami dit « Je voudrais des penées ». Et moi, j'en avais un peu assez des penées et donc je lui dis « Mais si nous achetions des farfales ?» Et là, il fait un petit sondage auprès des amis qui étaient là, un sondage tout à fait faussé. Et il dit penné. Il dit voilà, tout le monde veut des pennés, ce qui était faux. Et donc, il voulait absolument manger des pennés. Et donc, je suis sorti sur le trottoir à Naples, dans une foule comme ça. Je me suis assis, puis je me suis mis à pleurer, parce que j'ai compris à ce moment-là que cet ami, qui est un vieil ami, était une mente religieuse. Et que ce qui l'intéressait avant tout, c'était de manger, de dévorer. Et donc je me suis mis à raconter cette histoire de mente religieuse, et ensuite... Après la menthe religieuse est venu un autre insecte, puis un autre insecte.
Et alors ?
Mais en fait, il s'agit de sentiments, de gens, oui.
Parce qu'en fin de compte, la vie de ces insectes qu'ils racontent, qu'ils déroulent, qui sont des nouvelles, c'est un recueil de nouvelles, finalement, leur existence peut être comparée aux existences des êtres humains, effectivement.
Ah oui, tout à fait, oui. Ils ont des existences. Alors, ils sont intermédiaires entre insectes et humains. On ne sait pas trop.
Vous racontez un souvenir d'enfance, peut-être personnel, à moins qu'il ne soit fictif pour les besoins du texte. Vous parlez de la découverte d'un animal presque préhistorique avec des écailles sur le dos, c'est le tatou.
Oui.
C'est authentique.
Non, tatou a toujours été un animal qui me fait peur. Excusez-moi, parce qu'il a quelque chose de médiéval, sa carapace, ça me fait peur. Et en fait, je crois que l'ensemble de ces nouvelles est un ensemble qui tourne autour de la peur.
Oui.
Et tous ces animaux, ou bien me font peur, ou bien ont peur. Et les deux. Ils font peur, ils ont peur. Et si je peux ajouter une petite chose, en fait, toutes ces nouvelles sont très inspirées directement d'un texte de Kafka, que j'aime, je ne parle pas de Kafka, je parle aussi de cette nouvelle, que j'aime par-dessus tout, qui s'appelle Le Terrier, qui est, à mon avis, une très très grande nouvelle, où Kafka relate l'histoire, si l'on peut dire, d'une taupe. Et cette taupe, elle a deux aspects. D'une part, quand elle est dans son terrier, avec ses pattes, elle creuse, elle fouille, et elle rencontre de temps en temps des insectes qu'elle mange, et donc elle est monstrueuse. Mais elle fait peur. Mais en même temps, elle sait qu'au-dessus d'elle, juste au-dessus, il y a des pas lourds, des êtres humains. Ce qu'elle suppose, elle ne sait pas ce que c'est. Elle croit que ce sont des dieux. Et elle a peur. Donc elle est à la fois effrayante et effrayée. Et je pense que mes insectes, reprenant donc Kafka, modestement, sont à la fois effrayants et effrayés.
C'est le cas des cloportes.
C'est le cas des cloportes qui, eux, sont plutôt effrayés.
Et qui vivent de manière grégaire,
voilà.
La peur de l'indépendance, alors que la menthe religieuse assume pleinement non seulement sa voracité, ce plaisir, elle jouit de la vie. C'est le texte, sans doute.
Son narcissisme.
Et puis, elle est fière de son corps, athlétique.
Ah, elle s'adore.
Et elle est redoutable, mais finalement, elle ne pense qu'à satisfaire ses appétits,
voilà.
Ses désirs sexuels aussi. Elle dévore
absolument,
même ses propres œufs.
Absolument, oui.
Mais chacun de ces insectes, finalement, a peur. Et il y a la peur de la mort, il y a toujours la menace d'un autre animal
qui
peut l'écraser d'un coup de talon.
Voilà, ouais. C'est ce qui arrive à chaque fois, finalement.
Jean-Marc Aubert, on va revenir sur la mante religieuse, parce qu'elle est sublime tout de même, cette mante religieuse. Je trouve que c'est le texte qui met le plus en valeur l'esthétique de cet insecte, sa puissance, sa dimension, la longueur de son corps et la fierté qu'elle a de sa puissance. Et elle assume sa gourmandise, sa voracité.
Voracité.
On revient avec vous dans Wagon Livre d'ici quelques minutes. Je rappelle le titre de votre dernier texte, L'insecte et le jardinier, disponible en librairie aux éditions de L'Arbre Vengeur. On marque une petite pause musicale et nous revenons bien sûr d'ici quelques minutes.
Des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit, non pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care, is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed.
Il nous faut aussi un jean usé que l'on partage. Deux, trois secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien.
Together, a new dimension, still far from being complete. You and I, close together, a new dimension, but if we dare we will succeed. Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Il nous manque si peu de choses.
Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose.
You and I, close together, new dimension. But if we dare, we will succeed.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'insecte et le jardinier, c'est le titre du dernier ouvrage de notre invité Jean-Marc Aubert qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion. Prenons effectivement la première nouvelle intitulée « La grande délicatesse de la mante religieuse ». On en parlait juste avant la pause musicale. C'est la reine des prés, vous dites qu'on l'appelle aussi prie-dieu, et vous la qualifiez de tigre de l'herbe. Comment s'est opéré le choix de ces insectes? Parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Il fallait leur trouver une symbolique, des qualités, des défauts, et chercher à faire une comparaison en les calquant sur peut-être les caractères, les défauts
oui, c'est
des
ça.
Humains.
Oui, c'est ça. Bon, là, entre religieux, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, là, ça se rapporte véritablement à quelqu'un que je connais et à certains traits de son caractère, enfin du moins ce que je pense être certains traits de son caractère. Pour les autres, il s'agit à chaque fois d'insectes qui me rappellent également, d'une certaine manière, des gens. Par exemple, moi, il y a un insecte qui est le scarabée, qui est en fait une sorte d'autoportrait. Mais les cloportes, ça fait penser à mon fils. Le capricorne me fait penser à un ami, ou plutôt à un ex-ami. Et puis, à la fin, le jardinier, qui n'est pas un insecte, bien sûr, mais qui s'occupe d'insectes de près, c'est mon père. Et c'est la première fois que, dans mes livres, j'évoque l'image de mon père, oui.
Alors, la menthe religieuse a cette formule qui est très intéressante. Mon animalité me fait jouir. Et je pensais qu'un humain pourrait dire « mon humanité me fait jouir ». Et vous, Jean-Marc Aubert, vous avez une animalité en vous ? Une humanité, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a une part d'animalité en vous ?
Personnellement, non. Je ne sens pas spécialement, non, de part d'animalité.
Non, parce que parfois vous dites... Alors, c'est le narrateur, mais le narrateur dit qu'il aimerait être un buffle. Il me semble, dans une de vos nouvelles, un des personnages dit qu'il aimerait être un sanglier.
Oui, la violence, oui.
Quel est l'animal qui vous ressemblerait le plus ?
Le renard.
Allons donc.
Ah, le renard, absolument. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, La cathédrale de Glaise, où le renard, oui. Et j'explique longuement pourquoi, d'ailleurs. C'est-à-dire, bon, le renard est... Il a la réputation, du moins, d'être rusé.
Craintif, un peu fuyant.
Craintif,
voleur.
Oui, non,
voleur.
Ouais, ouais. Fidèle. Le renard a toujours la même compagne. Il défend, du moins dans le roman de Renard, avec férocité, ses petits et sa compagne. Donc oui, le renard.
Alors cette menthe religieuse qui a une vocation prédatrice, c'est amusant parce que on a le sentiment, c'est le cas notamment du Capricorne, qu'il y a une entreprise de démolition. Que leur vie ne peut générer que désastre, destruction, démolition, et donc finalement une forme de force s'inscrivent toujours à leur niveau, dans une forme de puissance. Ils ne sont pas modestes, hormis les petits cloportes qui ne cachent pas leur fragilité, oui. Leur crainte du soleil et qui ne peuvent vivre qu'en groupe.
En effet, ils ne sont pas modestes, ils sont tout puissants. À leur niveau, mais en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont toujours menacés par des plus forts qu'eux, par d'autres animaux qui peuvent les tuer, tout simplement. Mais ils n'ont pas conscience de ça, ils sont tout puissants. Et donc, comme tout tourne autour de la nourriture, ils détruisent. Manger, c'est détruire. C'est détruire quelque chose, c'est faire disparaître quelque chose. Et ils sont obsédés par ça, par ce gain, le gain.
Mais n'est-ce pas aussi le défaut de l'humanité actuelle ? Qui veut, dans ce désir de consommer, avoir, pour la grande majorité, société de consommation, avoir toujours plus.
Oui,
ne pas se contenter de ce que l'on a, on veut toujours plus. Les humains ont aussi, comme ces insectes, des appétits. Ils sont dévorés par la voracité.
Oui, c'est vrai, ils sont dévorés par l'envie de dévorer. Oui, oui, c'est vrai, absolument. Oui, oui, oui.
Est-ce que, Jean-Marc Aubert, derrière les histoires, les vies de ces insectes, est-ce qu'il y a une dénonciation aussi de certains aspects de notre société humaine? Ou est-ce qu'il faut prendre ces textes avec plus de, disons, Jean-Marc Aubert se fait plaisir et ça donne à une liberté créatrice?
Je pense honnêtement, mais peut-être est-ce très prétentieux, qu'il y a effectivement manière à élargir quelque peu le sujet. Par exemple, ma montre religieuse, dont j'ai longuement discuté avec l'ami en question, qui est le sujet, c'est à la fois une montre religieuse, donc un animal, mais c'est aussi à la fois, il a quelque chose, cet animal, elle a quelque chose de très féminin, elle est très féminine, la montre religieuse, et peut-être peut-on y voir quelques traits classiques de certaines femmes. Cet animal a aussi à voir avec l'homosexualité. Cet animal est donc la montre religieuse, et elle est à la fois vorace, féminine, homosexuelle. Alors on peut y voir ce qu'on veut, oui, bien sûr.
Mais elle n'est pas cruelle, elle a juste faim.
Ah non, elle n'est pas cruelle. On dit qu'elle est cruelle, elle le réfute. Elle dit non, je ne suis pas cruelle, je veux manger. Ah non, je ne sais pas. Ceci, elle est quand même, bon, elle mange volontiers ses enfants, c'est tout, elle mange tout, quoi. Donc, mais elle n'est pas cruelle, ça n'a pas de sens pour elle. Gentille, méchant, ça n'a pas de sens. Elle mange, elle dévore.
Elle se croit toute puissante jusqu'au moment où elle aussi trouve un prédateur.
Absolument.
Alors, il y a un autre texte intitulé « Le savoir encyclopédique du Capricorne oui. ». Alors là encore, on retrouve donc le Capricorne, parce que chaque insecte est présenté de manière très scientifique. Alors le Capricorne, je retrouve la définition initiale qui le présente. C'est la fin de quelques secondes que je trouve la page. Capricorne, classe des coléoptères, peut atteindre 15 cm, forte odeur de rose, climat tropicaux et tempéré. Ce Capricorne habite, alors on n'est plus dans la nature cette fois-ci, comme la menthe religieuse, reine des prés, là on est dans une bibliothèque, où ce Capricorne, alors il a consulté quelques ouvrages, il manque un peu de modestie lui aussi, complètement. Il a feuilleté quelques livres, il a vu quelques illustrations d'ouvrages dans cette bibliothèque, ce qui ne l'empêche pas d'entreprendre, et d'ailleurs à mon avis consciemment, la démolition de cette bibliothèque.
Oui, bien sûr.
Et alors là, on pourrait y voir finalement, j'allais dire, nature et culture qui s'opposeraient.
Absolument.
C'est-à-dire finalement le côté sauvage, barbare, d'une certaine manière, animal, qui abîme la civilisation humaine.
Mais d'ailleurs, à un certain moment, parmi les livres qu'il a plus ou moins vus du haut de sa poutre, parce qu'il vit dans une poutre, il y a des templiers, des hospitaliers plutôt, c'est-à-dire des moines-soldats. Et les moines-soldats, voire dans Alexandre Nevsky, sont à la fois porteurs de connaissances, de savoir, ce sont des moines, mais en même temps, ils sont d'une cruauté terrible, ils sont barbares, ce sont des guerriers. Voilà, tout est dit là-dedans. Ce Capricorne, il est à la fois nature et culture, oui. C'est ça. Oui.
Alors, il est offensif, et en plus, il encourage un compagnon à dévorer. Il encourage aussi ses enfants. Il y a une hérédité.
Absolument.
Allez-y, grignotez, oui. Détruisez la poutre. Et c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'en détruisant la poutre, ça revient un peu à dire qu'il scie la branche sur laquelle il est assis.
Absolument, oui.
C'est la même chose.
Absolument.
Et est-ce qu'il faut y voir, justement, la dénonciation d'une forme d'absurdité?
Absolument, parce que comme ce Capricorne est né, disons, de longues discussions que j'ai eues avec un ami, très cultivé, très prof de philo, il faut le dire, puisque c'est le cas, et qui, à un certain moment, a commencé à me lasser par sa culture permanente, qui revenait toujours au premier plan, etc., etc. Donc oui, il faut y voir quelque chose comme une forme de lassitude face à cette culture étalée. Moi, j'aime beaucoup ce qui est de l'ordre de l'art, la peinture. Je ne crois pas tellement à l'érudition, même si, bon, il se trouve que je connais un peu certaines choses. Mais non, c'est pas... C'est plus du côté de la sensibilité, on va dire, c'est ce qui m'intéresse.
Alors notre Capricorne qui dit « ma culture livresque est immense, oui, car j'ai au moins consulté 5 livres »,
en effet.
Il tombe néanmoins sur un grand credo d'un poète du 19e, « enivrez-vous, mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous ».
Voilà.
Et lui, il s'enivre à un moment, bon, de produits toxiques qui sont,
ah oui,
qui sont versés dans la bibliothèque pour essayer de freiner la destruction de la poutre.
Oui, oui, c'est ça, les pompiers ou je ne sais qui interviennent et qui mettent du je sais pas comment ça s'appelle, du TNT ou plutôt du cyclone B. C'est-à-dire, en fait, le gaz qui a été utilisé...
Oui, dans les chambres à gaz.
Dans les chambres à gaz, oui. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière nouvelle.
Et d'ailleurs, la poutre attaquée par des parasites qui l'abîment, la fragilisent et la menacent de casser, de se briser, on la retrouve aussi dans aménagements successifs d'un jardin à C, parce que le propriétaire qui achète cette maison à Charbuis constate que la poutre est attaquée. Ben, alors, est-ce qu'il y a une symbolique de cette poutre, Jean-Marc Aubert ?
Oui, je crois. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout, mais je pense maintenant que oui. À savoir, plutôt ce que je pense, c'est que j'ai l'impression, si, depuis que j'écris, ça fait longtemps que j'écris, puis je voulais écrire dès que quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'en fait, ce dont je parle, ce que j'écris, c'est une maison. Je suis moi-même, j'habite, si j'en peux dire, une maison. Cette maison, c'est mon corps. Et cette maison, comme toute maison, tient grâce à des poutres. Ce corps que j'ai, que vous avez, est sans cesse menacé par la destruction, par la déliquescence, etc., etc. Il s'agit quand même de lutter contre, mais de mettre aussi en scène ce qui menace justement l'équilibre de ce corps. Et ça, c'est encore... je renvoie là à un auteur qui est extrêmement important pour moi, très important, c'est Borges, qui... par exemple, le Capricorne est quand même assez lié à Borges, et à une nouvelle qui s'appelle... Le Minotaure. Ça s'appelle Le Minotaure, et ça, c'est une nouvelle que je trouve absolument extraordinaire. Il n'y a pas de personnage. Il y a une maison. Il n'y a pas de personnage. Et il y a un narrateur qui rentre, si je puis dire, dans la maison et qui ne voit rien, puisqu'il n'y a rien. Mais il s'aperçoit petit à petit que les tables sont pas droites, que les escaliers sont bizarres, que les meubles sont étranges. Et petit à petit, il reconstitue le locataire des lieux. Et il comprend que le locataire des lieux est un monstre. Puisque rien n'est droit, tout est immense. Mais on ne le voit pas. Et je pense que le locataire, mon locataire, le locataire de mon propre corps, d'une certaine manière, comme pour chacun, je n'ai rien d'extraordinaire, est un monstre. Nous sommes, d'une certaine manière, quoi que nous en disions, charmants, gentils, bien sûr, évidemment, mais en même temps, il y a quelque chose en nous, ça s'appelle le cerveau aussi, qui est un peu monstrueux, qui peut déterminer des comportements étranges, des démons. Nous avons des démons intérieurs.
Et je rappelle donc quelques-uns de vos textes. Aménagement successif d'un jardin à C, donc à Charbuis, en Bourgogne, à l'Arbre Vengeur. Je rappelle aussi Kurtz, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est l'histoire de... Là aussi, c'est une rencontre amoureuse, mais qui doit prendre du temps. La femme dit à cet homme qui est sous le charme, elle lui dit, nous allons nous rencontrer, mais dans 5 mois. Parce qu'elle veut des compétences et leur histoire ne doit pas ressembler aux autres histoires de rencontres amoureuses. Et c'est un livre sur la frustration. Et cette femme, elle est un peu mente religieuse, à sa manière.
Oui, absolument. Je le découvre en vous écoutant, vous avez raison.
Et votre dernier texte, Jean-Marc Aubert, on y reviendra d'ici quelques minutes, « L'insecte et le jardinier à l'arbre vengeur ». Nous marquons un nouvel intermède musical et nous nous retrouvons avec notre invité. Vous êtes toujours sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Sers ton bonheur quand il vient, écoute les murmures et les lents dessins du fleuve rouge et mauve qui coule en nos seins. Ces dangers, ces ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien. Devant la nuit immense et jusqu'au matin, va toucher le lointain. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est partout, mon amour. C'est à toi de le voir. Terre, ta douleur quand elle brille, partage tes envies, tes jeux, tes prodiges. Le long de tes racines, ces bois qui grésillent, va défier tes vertiges. Brûle ton amour quand il brûle, fais feu de tout le bois dont tes bras disposent. Étonne-toi du fond de ta moindre cellule, n'oublie jamais les roses. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Le miracle est en nous, mon amour. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Le miracle est en nous, mon amour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je suis très heureux de parler d'insectes aujourd'hui avec notre invité, Jean-Marc Aubert, qui signe « L'insecte et le jardinier » aux éditions de l'Arbre Vengeur. Le jardinier, vous l'êtes vous-même jardinier, Jean-Marc Aubert ?
Non, je l'ai été un petit peu, mais très peu. Disons non.
Parce qu'il y en a plusieurs des jardiniers dans votre œuvre.
Oui.
Dans le recueil de nouvelles « L'encombré », La nouvelle intitulée Tilleuls et gisants. On a un jardinier qui entretient une chapelle dans laquelle, alors entourée d'un très beau, d'une allée de tilleuls justement, chapelle dans laquelle se trouvent les gisants d'un couple. Et il y a un jardinier dans la dernière nouvelle du recueil L'insecte et le jardinier. Vous avez dit précédemment que vraisemblablement ce jardinier, vous avez été inspiré par votre propre figure paternelle. Ah oui. Et c'est un jardinier aux réactions étranges. Il encadre des enfants. Donc c'est un jardin qui est au sommet d'une falaise sur une île. Un jardin réparti en quatre parties, extrêmement millimétré. Il y a une rigueur, presque une mathématique des alignements de plantation. Et les enfants sont, si je puis me permettre, coachés par ce jardinier, mais qui est taiseux, qui ne donne pas vraiment d'ordre, qui est un peu inquiétant et qui pourrait être presque un peu dangereux. Enfin, sa fin est terrible, je n'en dis pas plus. Jean-Marc Aubert, alors, cette nouvelle surprend. Celle qui termine le recueil.
Oui,
parce que qui trouver, qui comprendre? C'est un faux jardinier.
Mon père, mon vrai père, mon père dans la réalité qui est décédé, était jardinier, faisait du jardin, en amateur bien sûr. C'est vrai que pour moi... c'est une image paternelle, c'est une image un peu effrayante, mon père. Et ce jardinier se tait, comme mon père, parlait peu, est un peu effrayant. Il n'inflige pas, si je puis dire, le même traitement. Il y a trois enfants dans la nouvelle. Il n'inflige pas le même traitement aux trois enfants. Enfin, tout ça, c'est mon cas. Et c'est la première fois depuis que j'écris, et j'écris depuis très longtemps. C'est la première fois que j'évoque directement, ou presque, mon père. Donc c'est une nouvelle pour moi qui est importante.
Et d'ailleurs, ce jardinier n'est pas un vrai jardinier, puisqu'il extermine tous les insectes de son jardin. C'est complètement aberrant.
Ah, il défend les plantes. il tue les insectes. Mais en fait, il tue les insectes. Qui tue-t-il ? Il tue les mantes religieuses dont on a parlé, et des mantes religieuses qui sont peut-être des femmes ou des homosexuels, et les tue. Il tue les gens qui ont trop de savoir, le Capricorne. Il tue le scarabée qui est peut-être ma propre image, le fils. Il tue les cloportes, son petit-fils. Donc il se débarrasse finalement
et
de la famille.
D'accord, Jean-Marc Aubert. Et juste un extrait du passage. Une fois, donc c'est le jardinier, il attrapa au vol d'un de ses gestes rapides et brutaux une coccinelle. C'était un insecte, donc un ennemi. En me fixant, il l'écrasa lentement entre le pouce et l'index. Je la regardais agiter les pattes et tenter d'ouvrir les ailes alors qu'elle était à demi broyée. Le jardinier dit à la coccinelle: tu m'as déçu, oh oui, tu m'as déçu.
Ah oui.
Et là, cette coccinelle, alors, c'est la beauté, c'est le...
Non, c'est un de ces ennemis dont je parlais. Ici, il s'agit plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais il s'agirait plutôt d'un enfant, puisqu'il en parle à un autre enfant. Il en parle à un enfant. Et il dit, tu vois ce que je pourrais faire? Je pourrais t'écraser comme ça. Cac, je pourrais faire ça. Et... je crois que c'était mon père, ça. C'est que dans son comportement à l'égard d'autres enfants, je pouvais craindre qu'il me fasse finalement la même chose. Alors que mon père, je le signale, il ne m'a jamais touché, hein, il ne m'a jamais battu ou quoi que ce soit, je ne veux pas en faire. Mais il me faisait peur.
Parlons des cloportes, sans transition, la nouvelle intitulée « Les humbles cloportes ». Alors, ce sont ceux qui m'ont le plus ému, ces petits cloportes. C'est vrai que c'est un peu répugnant, c'est moche, ça grouille, c'est notre essaim gluant, nous vivons en masse compacte. Ils se sentent puissants et rassurés. lorsqu'ils sont, j'allais dire, presque coagulés, collés.
Pressés les uns contre les autres, oui.
Et alors là, c'est Cloporte, à l'origine, vivait dans le milieu aquatique.
Oui, première phrase, oui. Il sort de l'eau.
Notre mère aquatique, mère, notre maman aquatique.
Oui. Nous sommes tous sortis de l'eau.
Et alors, il y a cette réflexion d'un des Cloportes. Il vaut mieux ne pas penser, se multiplier, rester au contact des autres, ne pas s'isoler. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas de la société humaine, par certains aspects, où personne n'ose vraiment prendre, j'allais dire, son envol, prendre sa liberté et son autonomie, on reste grégaire et on n'est pas si heureux que ça, finalement. Parce qu'on a peur, on a peur d'être seul, on a peur de jouir de la solitude, de se retirer de la société. Il y a un manque de courage. Alors on vit côte à côte et on se supporte tant bien que mal.
Oui, d'accord. Il se trouve aussi que, comme je le disais, le Cloporte c'est aussi, fait référence en quelque sorte à mon fils, qui est quelqu'un qui a éprouvé beaucoup de difficultés dans la vie et qui se rassurait en quelque sorte en vivant avec des marginaux comme lui. Donc ces Cloportes, ce sont des marginaux en fait, mais ils se rassurent, comme vous le disiez, en se regroupant, en se serrant les uns contre les autres. Ils s'aiment. Ils s'aiment.
Et alors, à la fin de la nouvelle, les Cloportes sont mis de côté. Et là, tout d'un coup, il y a deux hommes dans une gare.
Voilà.
Et l'un, chacun prend un train dans des directions différentes. Donc, on comprend qu'ils se séparent. Et il y a cette phrase, « Il m'avait bel et bien quitté. Il avait quitté le groupe et la société auquel je le rattachais sans doute. Il pourrait rencontrer des frères et sœurs de solitude. » Et un peu plus loin, il est dit de lui qu'il va devenir le spectateur d'une vie qui vivote.
Oui. Ouais. C'est ce que je craignais pour mon fils. Heureusement, la vie a fait que tout va mieux. Mais oui, c'est ce que je craignais. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, j'étais sur les insectes depuis le début du texte, et là, je fais de façon assez brutal, je passe à un individu, à un homme. Et d'ailleurs, la dernière nouvelle va mettre en scène un autre homme. Donc petit à petit, on a glissé d'insectes purs à quelques humains.
Mmh. On est passé de l'animalité à l'humanité.
À l'humanité, oui. Et oui. Mais peut-être parce qu'il s'agit de mon fils et il s'agit de mon père, c'est-à-dire des gens que là qui me touchent vraiment de très très près. Et peut-être que je n'ai pas pu, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que j'écris.
Mais Jean-Marc Aubert, ce sont toutes des figures masculines. Cette amie mente religieuse
oui.
que nous connaissons,
oui.
Julien, votre fils...
Oui.
Que je ne connais pas, mais
ouais.
dont j'ai entendu parler.
Ce sont tous, effectivement.
Ce sont tous des figures masculines.
Oui, oui.
Les femmes, là, sont...
Non, il y a les lucioles.
Alors, il y a les lucioles. C'est peut-être le côté radieux, lumineux.
C'est...
Encore que, il faut apporter une petite nuance.
Une petite nuance, effectivement, parce que il s'agit, effectivement, d'une amie, IE, que j'aime beaucoup, et qui hélas ne m'aime pas beaucoup, mais enfin, disons qu'il ne m'aime pas comme j'aimerais qu'elle m'aime, mais voilà, et c'est l'élément féminin.
Oui.
C'est plus léger.
Alors, Luciole, ordre des coléoptères, Luciola ou vulgaire, l'empire luisant, famille des téléphorides, de 2 à 15 cm selon les régions du monde. Alors, j'allais dire, il y a 4 intermèdes.
Absolument, oui.
4 petits intermèdes où les lucioles viennent apporter un petit peu de gaieté,
absolument, de légèreté,
de douceur, de légèreté.
Ça ne sert qu'à ça. Elles ne disent rien d'autre que, prenons un tableau, il y a trop de, je vais dire n'importe où, de quoi, il y a trop de rouge. Donc on va mettre un petit peu de vert. Eh bien là, c'est pareil. Je trouvais que c'était trop massif, mes insectes, et il fallait apporter un petit peu de légèreté dans le tableau, donc j'ai mis ces lucioles.
On est loin, on est loin de la carapace un peu rêche des insectes, on est plus dans le velouté,
absolument,
dans la douceur, la lumière, la chaleur, d'ailleurs, lumière vivante et joyeuse, voilà. Petite fée en mouvement, voilà. Un signal d'amour.
Voilà.
Donc là, c'est la femme célébrée dans ce qu'elle apporte de réconfortant dans une existence. Fait, oui. Ceci dit, les lucioles ont des mœurs particulières, mais je n'en dis pas plus, voilà, à découvrir dans L'insecte et le jardinier de Jean-Marc Aubert. Alors si on parlait un peu de vous, le scarabée roi, nouvelle, le scarabée roi, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est une forme d'autoportrait.
Oui, c'est une forme d'autoportrait, évidemment pas complet, disons qu'il pointe en moi, c'est un enfant, le scarabée. C'est un enfant roi. Côté...
Et divin.
Et divin. Capricieux, mégalo, tout ça. Enfin, toutes mes grandes qualités, comme on le voit. Il est très défensif, également.
Oui.
Il se rétracte. Mais il est tout puissant.
Alors,
jusqu'au moment où il dépasse les mesures, la mesure est que les autres en ont vraiment assez et lui disent « bon, allez, stop ».
Si vous le voulez bien, Jean-Marc Aubert, on revient sur votre nouvelle « Le scarabée roi » après une dernière pause musicale, c'est Wagon Livre, c'est la rentrée littéraire avec Jean-Marc Aubert, dont vous pouvez trouver les livres alors réédités à l'Arbre Vengeur, hein, Courte, argumentation de l'Inès Fellow, aménagement successif d'un jardin à Charbuis en Bourgogne, et le tout dernier, qui est délicieux, qui se grignote, qui se mastique, qui se mâche comme la menthe religieuse mâche l'herbe craquante et croquante, L'insecte et le jardinier, toujours aux éditions de l'Arbre Vengeur. Nous revenons avec Jean-Marc Aubert, ses wagons livres jusqu'à midi sur Radion.
Comme si j'étais devenu un monstre d'amour, mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Je sombre dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi, quelle est cette couleur qui me tord, qui m'atteuvre, que je ne connais pas. C'est comme si j'étais transformé. J'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Il les devine quand s'éteint le jour. Dis-moi, dis-moi pourquoi je sens. Dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi, quelle est cette couleur qui me tord, qui
jambes flanches, mon cœur est lourd.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Revenons avec Jean-Marc Aubert qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être devant le micro de Wagon Livre sur Radion sur cette nouvelle intitulée Le Scarabée Roi. Alors, il est le dieu Scarabée, fils du dieu Chacal, et là, Jean-Marc Aubert, nous ne sommes plus dans la nature, nous ne sommes plus au milieu des prés, nous ne sommes plus dans une poutre, nous ne sommes plus sous un caillou à l'abri du soleil, dans un environnement humide et un peu gluant. Nous sommes quand même, et on renoue, avec la grande civilisation égyptienne. Et là, ce n'est pas anodin non plus, ce texte sur le scarabée, puisqu'il y a malédiction, il y a prière, il y a culte, il y a vénération, il y a l'Égypte. C'est la plus exotique, la plus énigmatique aussi de ces nouvelles.
Oui.
De par là. L'identité de cet animal qui était vénéré dans l'Égypte et qui a un symbole qui est porteur du soleil, enfin le passage du jour à la nuit.
Je pense aussi que dans si on compare cette nouvelle aux autres, elle est beaucoup plus hybride. On ne sait pas trop, cet animal, il est porteur de choses assez différentes en lui. Et ce qui est important, il habite un palais.
Oui.
Il habite un palais, et comme on sait, Pharaon égale aussi Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Et d'ailleurs, au début, il dit une chose qui est importante dans la nouvelle, c'est qu'il pense que le monde vit avec lui. Par exemple, il pense que quand il ferme les yeux, le monde n'existe plus. Et quand il ouvre les yeux, le monde réapparaît.
Il a la peur de la nuit, un peu comme les enfants que l'on met au lit.
Absolument, c'est ça. Le scarabée, c'est un enfant roi. Tout tourne autour de lui. Et petit à petit, il s'éveille, dans la nouvelle, il s'éveille, si l'on peut dire, à différentes choses. Il va grandir, la sexualité, etc. Il va mourir aussi, il va arriver, enfin je le dis, parce qu'il n'y a pas de surprise. c'est une vie, quoi.
Mais c'est la seule nouvelle où le monde des insectes ressemble à une société. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui domine, mais la révolte, la rébellion peuvent aussi apparaître.
Absolument. Oui,
on peut détrôner l'insecte qui se croyait indéboulonnable sur son trône et vénéré.
Et l'enfant lui-même, même s'il s'agit d'un enfant roi, au début, lorsqu'il naît, lorsque l'enfant paraît, petit à petit va être déboulonné, effectivement, va devenir un adulte et il comptera moins, hein, il sera aux prises avec les autres, avec la société globale, comme on dit, la société qui l'entoure, c'est ce qui arrive à ce scarabée.
Mais n'est-ce pas cela aussi l'existence, Jean-Marc, quand on tombe de son piédestal de l'enfance?
Absolument.
La chute est parfois difficile, le monde des adultes est
tout à fait
dur, cruel, ouais, parfois.
Oui, ouais, tout à fait, absolument.
D'ailleurs, le scarabée, il définit ainsi son rôle: éveiller chaque matin le pays, autoriser son essor, juger, récompenser et punir, m'enquérir de la santé de nos crocodiles sacrés, me nourrir, et puis encore prier, prier, prier.
Oui. Prier parce que, m'a-t-on dit, les pharaons pouvaient prier jusqu'à 12 heures par jour, ce qui est absolument aberrant, fou. Et donc prier, prier, prier. Oui.
Et le cérémonial du réveil rappelle aussi, puisqu'on est là dans la civilisation égyptienne, mais cela rappelle aussi le réveil de Louis XIV à Versailles. Il y a comme ça une sorte de miroir de l'histoire.
Il est au centre du monde.
Alors, Jean-Marc Aubert, ce scarabée, vous dites, il me ressemble. Est-ce que vous, Jean-Marc Aubert, vous craignez la chute, comme lui? Et si chute il y a, quel mot lui collez-vous? C'est la peur vieillir, mourir, manquer d'inspiration pour les prochains livres?
Je crois que ce scarabée craint de lasser les autres et que les autres se vengent en quelque sorte et l'éliminent. Et c'est une grande peur que j'ai eue quand j'étais comme chacun, je n'ai rien d'extraordinaire encore une fois, que j'ai eue enfant, parce que je crois que les enfants craignent de lasser leurs parents, craignent d'être abandonnés. Oui, et nous-mêmes dans notre vie, nous craignons sans cesse de lasser les autres, d'être abandonnés, je crois. Et puis un jour, d'ailleurs, nous sommes abandonnés, tous. Mon père, tu m'as abandonné. Et nous mourrons seuls. Et je crois que c'est ça. Ils sont... La peur du scarabée, c'est ça.
Alors, vous dites, Jean-Marc Aubert, que l'enfant a peur de lasser ses parents. Est-ce que parfois, ce ne sont pas les parents qui lassent les enfants?
Oui. Sans doute, mais je n'ai pas réfléchi à ça. Franchement, oui, peut-être. Je n'ai pas réfléchi à ça dans cette nouvelle, du moins. C'est...
Mais alors, Jean-Marc Aubert, quand on est écrivain, qu'on a commis plusieurs romans, qu'on a connu le succès, ouais, qu'on a eu des papiers dans des grands quotidiens nationaux, qu'on a été montré comme le Borges bourguignon à une époque, cette peur, justement, de lasser, est-ce qu'elle domine aussi l'activité d'écriture de Jean-Marc Aubert, nouvelliste et romancier?
Absolument.
La peur de lasser, donc la sortie d'un livre, c'est toujours un peu effrayant?
Non, mais absolument.
Merci. Parce que les éditeurs, notamment L'Arbre Vengeur, vous réjouissez du grand intérêt qu'ils ont pour vos anciens livres qu'ils rééditent.
Absolument.
Et ça doit vous réjouir.
Ah oui, j'aime beaucoup cette édition, L'Arbre Vengeur, qui est en fait l'édition de la grande librairie bordelaise dont le nom évidemment m'échappe à l'instant, mais on ne connaît que ça. Et l'édition, je ne sais plus le nom de cette maison, c'est la plus grande librairie de France. Et qu'il s'intéresse à mes livres, ça me réjouit. J'ai peur de lasser, mais quand j'écris une page, j'ai peur de lasser. J'ai peur de lasser quand j'écris une page. Je me rends compte, je crois, je me dis, ça, c'est un peu... Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces 10-15 lignes-là. Il n'y a rien, c'est terne. Alors, quand c'est terne, je mets un mot.
Un Jean-Marc Aubert aussi très exigeant avec lui-même et avec son écriture.
Ah oui, ça, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Oui.
Le temps passe très vite, Jean-Marc Aubert. On est au terme de l'émission. Je vous remercie. Très heureux de vous avoir eu devant le micro de Wagon Livre. Et je rappelle donc L'Insecte et le Jardinier aux éditions de L'Arbre Vengeur, disponible en librairie. Il est sorti au printemps.
Oui, c'est ça.
Tout frais. Il sent encore l'encre fraîche. Merci Jean-Marc Aubert.
C'est moi qui vous remercie.
Rendez-vous à nos auditrices et auditeurs samedi prochain, 10 septembre. Nous serons avec Michel Redron pour son roman « Avec qui revoir Venise ». Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Vous retrouvez cette émission en podcast sur yannickpetit.fr. Au revoir et à samedi prochain.
Merci, au revoir.